Chapitre 8. La vente à Björn. Souvent, nous autres enfants, nous étions fort étonnés à ces récits de vieilles femmes. Était-ce donc bal chaque jour, tant que dura votre brillante jeunesse? Leur demandions-nous. La vie n'était-elle donc qu'une seule et longue aventure? Les jeunes filles étaient-elles toutes aimables et chaque fête se terminait-elle par un enlèvement? Les vieilles femmes secouaient alors leurs têtes vénérables et se mettaient à deviser des besognes du ménage, et du ronronnement des rouets, et du bruit des métiers, et du claquement des fléaux dans les airs, et du coup sourd des haches dans les forêts. Mais cela ne durait guère, et elles retombaient bientôt à leur sujet favori. Et les traîneaux attendaient devant les portes, et les chevaux emportaient la gaie jeunesse à travers les sombres bois, et les danses tourbillonnaient, et les cordes des violons éclataient. La chasse effrénée des aventures menait son vacarme autour du lac étroit et long du Leven. La forêt vacillait, s'écroulait. Tous les esprits de la destruction semblaient déchaînés. Ravages d'incendies, inondations, digues rompues par les torrents, et autour des maisons, le souffle rôdeur des bêtes féroces. Les tranquilles bonheurs étaient foulés, piétinés sous le sabot des chevaux. Partout où passait cette furieuse randonnée, les cœurs des hommes brûlaient de flammes violentes et les femmes s'enfuyaient de leur foyer. Nous écoutions, silencieux, épouvantés et ravis. « Quels hommes » songions-nous. « Nous ne reverrons leur pareil. » « Mais ces gens d'autrefois ne pensaient-ils jamais » demandions-nous. « Certainement ils pensaient » répondaient les vieilles femmes qui nous contaient ces histoires. « Mais pas comme nous pensons » répliquions-nous. Alors les vieilles personnes ne comprenaient pas ce que nous voulions dire. Nous songions, nous, à l'étrange esprit de réflexion et d'analyse qui s'est installé au coin le plus obscur de notre âme, à l'origine même de nos actes. Il se tient et les déchiquette comme les vieilles femmes leurs chiffons de laine ou de soie. Cependant, il y avait à cette époque une personne qui en souffrait déjà. La belle Marianne se sentait toujours regardée par un intime spectateur aux yeux de glace et dont l'éternel sourire se réfléchissait sur le miroir de sa vie. Elle ne vivait pas. Elle jouait, devant cette hôte ironique, le rôle de la belle Marianne. Mais où était-il, ce pâle et taciturne observateur de ses pensées, le soir que son sein s'était gonflé d'un sentiment de plénitude immense? Où était-il, quand la prudente fille avait baisé Josta Berling devant des centaines d'yeux, et quand elle s'était jetée dans la neige, désireuse d'y mourir? Alors le regard glacial s'était refermé, le sourire moqueur s'était évanoui, et la passion avait traversé son âme avec la soudaineté d'une rafale. Marianne était tombée malade le jour même qui suivit les événements que nous avons rapportés. La petite Vérole, qui sévissait à Sio, s'était jetée sur elle, et la mort l'avait effleurée. Cependant, vers la fin du mois, elle entrait en convalescence, très faible encore et complètement défigurée. On ne l'appellerait jamais plus la belle Marianne. Cette perte de sa beauté, dont tout le Fermeland devait s'attrister comme si on lui eût dérobé un trésor national, n'était encore connu que d'elle seule et d'une vieille garde-malade. Les cavaliers l'ignoraient. Mais quand l'observation de soi-même est-elle plus vive et plus pénétrante qu'aux heures de convalescence? Sous les yeux glacés de l'esprit d'analyse, les sentiments irréfléchis de la jeune fille se fanèrent et dépérirent. Elle recommença de jouer sa vie. Elle jouait la malade, la convalescente, la malheureuse, la vindicative, l'amoureuse. Elle avait touché en une seule nuit l'extrême de l'amour et de la haine. Aujourd'hui, toutes les forces de la vie s'étaient assouplies dans son être. Elle ne savait plus si elle aimait Josta Berling, mais il lui tardait de le revoir pour éprouver s'il serait encore capable de l'arracher à elle-même. Pendant sa maladie, elle n'avait eu qu'une idée claire et nette. Elle ne voulait pas qu'on sût qu'elle était malade. Elle ne voulait ni voir ses parents, ni se réconcilier avec son père. Car s'il apprenait son état, elle pensait bien qu'il aurait des remords et se laisse réfléchir. Elle ordonna donc qu'on répandit le bruit que le mal Dieu dont elle souffrait parfois l'obligeait à rester derrière ses stores baissés. Elle défendit à sa garde malade de donner de ses nouvelles et fit défendre au cavalier d'appeler le médecin de Karlstadt. On trouvait tous les remèdes nécessaires dans la pharmacie de famille du manoir. L'idée qu'elle pouvait mourir ne la hanta pas un moment. Elle attendait le jour de son rétablissement pour aller avec Josta demander au pasteur de publier leur ban. Enfin, la maladie était vaincue. De nouveau, froide et raisonnable, Marianne se faisait l'effet d'être la seule personne sensée dans un monde de fous. Elle n'avait plus ni haine ni amour. Elle comprenait son père. Elle les comprenait tous. Qui comprend ne hait pas. On l'informa que Melchior Sinclair avait résolu de mettre Bjorn aux enchères et de disperser ses biens afin qu'elle n'eût rien à hériter de lui. Il vendrait d'abord les meubles et les objets de ménage, puis le bétail et les instruments de labour, enfin le domaine. Il enfermerait son argent dans un sac et l'abîmerait sous les eaux du Leven. Ruine et dévastation, voilà ce qu'il léguerait à sa fille. Quand on lui conta ces choses, Marianne eut comme un sourire indulgent. Il lui semblait naturel que son père agît ainsi. Un jour qu'on avait aéré et purifié les chambres et qu'elle était étendue sur un canapé, elle envoya quérir Gösta Berling. On lui répondit que Gösta Berling était précisément parti pour la vente de Bjorn. À Bjorn, c'était en effet grande vente. Et vu la richesse de cette vieille demeure, des gens étaient venus de loin et s'y pressaient. Le vieux Melchior Sinclair avait traîné et jeté dans le salon tous les meubles du logis qui s'y empilaient jusqu'au plafond. Il avait passé partout, pareil à l'ange du jugement dernier, et il avait fait main basse sur tout. Seuls les ustensiles de cuisine, tabourets, marmites noires, plats de cuivre, gobelets d'étain, avaient échappé à sa rafle. C'étaient aussi les seuls objets qui ne lui parlaient point de Marianne. Dans la chambre de la jeune fille, rien ne fut épargné. Ni sa maison de poupée, ni sa bibliothèque, ni la petite chaise qu'il lui avait donnée, ni ses robes, ni son linge, ni son canapé, ni son lit. Il alla de chambre en chambre, et on le vit plier sous le poids des fauteuils et des tables de marbre. Il ouvrit les armoires et en tira la superbe vieille argenterie de famille. Marianne y avait touché. Il emporta des brassées de damas blancs comme de la neige, des nappes lisses avec des broderies à jour plus larges que la main, honnête travail fait à la maison, fruit d'un patient labeur. Marianne n'était pas digne de les user. Il courut à travers les pièces avec des piles de porcelaine et peu lui importait que des douzaines d'assiettes fussent brisées. Il saisit des tasses où les armes de la famille étaient gravées, s'en servira qui voudra. Il fit dégringoler du grenier des montagnes d'Edredon et d'oreillers si doux et si moelleux qu'on y enfonçait comme dans une vague. Marianne y avait dormi. Il jeta des regards furieux sur les vieux meubles, sur les chaises où elle s'était assise, sur les canapés où elle avait reposé, sur les tableaux qu'elle avait contemplés, sur les lustres qu'il avait éclairés, sur les glaces qui avaient reflété ses traits. Il menaça du poing ce monde de souvenirs, et volontiers, à coups de hache, il eut pulvérisé tous ses évocateurs. Mais une vente à l'encan le vengeait mieux qu'un massacre. Que toutes ses richesses aillent donc aux étrangers, qu'on salisse ses meubles dans des cabanes de fermiers, qu'il tombe en ruine sous les yeux indifférents. Il les connaissait, pour les avoir souvent vus dans les fermes, ces meubles achetés aux enchères, flétris, usés, déshonorés comme sa belle Marianne. Sous leurs dorures effacées et leurs coussins crevés, les jambes boiteuses, le marbre maculé, ils semblent soupirer après leurs anciennes demeures. En travers de la pièce, où s'entassait ce fantastique chaos, on avait dressé un long comptoir, derrière lequel le commissaire-priseur, debout, criait les objets, pendant que deux scribes enregistraient les prix. Melchior Sinclair y avait aussi placé un tonneau d'eau-de-vie. De l'autre côté du comptoir, dans le vestibule et jusque dans la cour, les acheteurs se bousculaient, riaient, plaisantaient, se renvoyaient des brocards. La vente battait son plein, et les surenchères galopaient les unes sur les autres. Près de son tonneau, Melchior était assis, demi-ivre et demi-fou. Ses cheveux se hérissaient en mèches drues sur sa face rouge et brutale. Ses yeux injectés roulaient dans leurs orbites. Il criait, riait, et à chaque objet vendu, forçait l'acheteur de traquer avec lui. Dissimulé derrière les spectateurs, épouvanté et le cœur serré d'angoisse, Gösta Berling se demandait où pouvait bien être la mère de Marianne, et il se mit à sa recherche. Le maître de forge n'aimait guère les gémissements et les lamentations des femmes. Furieux des larmes que la sienne versait sur les trésors de son foyer et sur son linge et sur sa literie, alors que son bien le plus précieux, sa fille, était à jamais perdu, il l'avait pourchassée de chambre en chambre jusqu'à la cuisine, jusqu'au cellier. Là, elle s'était affaissée sur une échelle, s'attendant à être tuée. Mais il avait simplement fermé la porte derrière elle et emporté la clé. Sûr qu'elle ne le dérangerait plus, et que d'ailleurs, elle ne mourrait pas de faim. Elle y était encore prisonnière lorsque Gösta Berling s'aventura dans le couloir qui séparait la cuisine de la salle à manger. Il aperçut par une lucarne près du plafond le visage de Madame Gustava qui, grimpée sur son échelle, épiait l'arrivée d'un sauveur. « Que faites-vous là ? » demanda Yosta. « Il m'a enfermée, » chuchota-t-elle. « Le maître de forge ?»« Oui, j'ai même cru qu'il allait me tuer. Mais écoute, Yosta, prends la clé de la salle à manger, elle ouvre ici. » Yosta obéit, et quelques instants après, la petite femme se trouvait à ses côtés dans la cuisine abandonnée. « Mais, dit Yosta, pourquoi ne vous êtes-vous pas fait ouvrir par une de vos bonnes ?»« Chut ! J'aurais été obligée de leur apprendre que la clé de la cuisine allait à la serrure du cellier, et je n'aurais plus jamais été sûre de mes provisions. » « Et puis, j'ai mis de l'ordre sur les planches là-haut. C'était bien nécessaire. Tu n'imagines pas la saleté. » Elle s'arrêta et essuya une larme au coin de sa paupière. « Dieu me pardonne, » reprit-elle. « Je divague. Il est bien probable que je n'aurai plus rien à surveiller ici. Il vend tout. Il disperse tout ce que nous possédons. » « Quelle misère, » fit Yosta. « Tu sais, Yosta, le grand miroir du salon, il était merveilleux. Car la glace est d'une seule pièce et la dorure sans défaut. Je l'avais hérité de ma mère, et il le vend. Il est fou. Oui, fou. Il ne s'arrêtera que lorsque nous serons obligés de mendier sur les routes, comme la commandante. Oh, j'espère bien que cela n'ira pas jusque-là. Si, Yosta, quand la commandante a quitté Egbe, elle nous a prédit des malheurs, les voilà. Elle ne l'aurait pas laissé vendre, Björn. Songe donc, sa propre porcelaine, les tasses de sa maison paternelle, il les vend aussi. La commandante ne l'aurait pas souffert. Mais enfin, que veut-il? C'est que Marianne n'est pas revenue. Il l'a attendue et attendue. Il arpentait la grande allée du matin au soir, et il en devenait fou de langueur. Mais je n'ose rien dire, moi. Marianne croit qu'il est fâché contre elle, dit Yosta. Non, elle ne le croit pas, mais elle est fière et ne veut pas faire le premier pas. Ils sont raides et durs, tous les deux, et c'est moi qui en pâtis. Ne pense pas qu'elle se marie avec toi, Yosta. Elle a été trop gâtée pour devenir la femme d'un homme pauvre, et elle a trop d'orgueil. Retourne vers elle et annonce-lui que, si elle ne revient pas, son héritage sera anéanti. Je suis sûre qu'il vend tout pour rien. Assise sur le rebord de la table, elle semblait n'avoir de pensée que pour ses glaces et ses porcelaines. Vous n'avez donc pas honte ? S'écria Yosta irrité. Vous jetez votre fille dans la neige et vous l'accusez ensuite de méchanceté parce qu'elle ne revient pas ? Et vous l'estimez assez peu pour vous imaginer que la menace de son héritage perdu la décidera à abandonner celui qu'elle aime. Yosta, je t'en prie, ne te fâche pas, toi aussi. Je ne sais pas ce que je dis. L'autre nuit, j'ai bien essayé d'ouvrir à Marianne, mais il m'a arraché de la porte. On prétend toujours ici que je ne comprends rien. Sois assuré, Yosta, que je ne te refuserai pas Marianne si je croyais que tu peux la rendre heureuse. Mais ce n'est pas facile de rendre heureuse une femme. Yosta la regarda. Comment s'était-il emporté contre cette pauvre créature toujours timorée et harcelée ? « Vous ne me demandez pas de nouvelles de Marianne ? » reprit-il doucement. Elle éclata en sanglots. « Tu ne te fâcheras pas ? » dit-elle. « Mais je désirais t'en demander tout le temps. Je sais seulement qu'elle vit, rien de plus. Je n'ai pas reçu un seul modèle, pas même lorsque je lui ai envoyé ses vêtements. Alors je me suis imaginée et j'ai cru que vous ne vouliez pas. » Yosta ne put se taire plus longtemps. « Marianne a été malade, dit-il. Elle a été malade tout le mois. Elle a eu la petite vérole et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle se lève pour la première fois. Je ne l'ai pas revue depuis la terrible nuit. » Ces mots n'avaient pas été prononcés que Madame Gustava s'était élancée hors de la cuisine. Les gens de la vente la virent entrer et chuchoter vivement à l'oreille de son mari. Le visage du vieux devint encore plus rouge et sa main appuyée au robinet de la barrique le tourna d'un mouvement brusque et laissa l'eau de vie se répandre sur le parquet. Tous pensèrent que les nouvelles apportées par la femme de Melchior devaient avoir de la gravité et que la vente allait finir. Le marteau du crieur s'arrêta dans l'air. Les plumes des scribes cessèrent de griffonner. On n'entendit plus une offre. Mais Melchior Sinclair se ressaisit. « Eh bien » cria-t-il, « ça ne marche donc plus ?» La vente recommença aussitôt. Madame Gustava revint en pleurant dans la cuisine où Yosta l'attendait. « Ça n'a servi à rien, dit-elle. Je croyais qu'il terminerait cette atroce vente quand il apprendrait la maladie de Marianne. Mais non. Je suis sûre qu'il ne demanderait pas mieux, seulement il a honte. » Yosta haussa les épaules et lui dit simplement adieu. Dans le vestibule, il croisa Saint-Rame. « Drôle d'histoire !» s'écria celui-ci. « Yosta, tu n'as pas ton pareil pour nous défrayer de belles aventures !»« Ce sera encore plus drôle tout à l'heure, » répondit Yosta. Le père de Boba est là, avec son traîneau plein d'argent. On dit qu'il achètera tout Bjorn et le paiera rubis sur ongle. Je voudrais voir le maître de forge quand il l'apprendra. Saint Ram rentra la tête entre les épaules et rit intérieurement. Puis, il se hâta vers la salle de vente où il se faufila jusqu'à Melchior Sinclair. « Veux-tu un petit verre, Saint Ram ?» lui demanda Melchior. « Mais le diable m'emporte si je t'en donne un, avant que tu aies d'abord acheté quelque chose. » « Maintenant, comme toujours, tu as de la chance, mon compère, » répliqua Saint-Ram. « Je t'annonce l'arrivée d'un homme de conséquence qui, le traîneau chargé de bel argent, vient acheter Bjorn meubles et immeubles. Il y a même ici un tas de gens qui achètent pour lui, car il ne tient pas à se montrer encore. Tu peux me dire son nom et je t'offre un verre. » Saint-Ram but le verre et, prudemment, se retira de quelques pas avant de répondre. « Il paraît que c'est le prêtre de Brebeu. » Melchior Sinclair n'avait pas au monde de pire ennemi. Leur querelle et leur haine dataient de loin. On racontait que, plus d'une nuit, le maître de forge avait guetté le prêtre sur des chemins sombres et lui avait administré une honnête volée de bois vert. Saint-Ram avait eu beau prendre ses distances, il n'échappa pas entièrement à l'explosion de colère que sa réponse provoqua. Un verre le frappa entre les yeux et la barrique d'eau-de-vie lui roula sur les pieds. Mais il s'ensuivit une scène dont le souvenir, longtemps après, lui dilatait encore le cœur. « Le père de Brebeu a juré d'avoir mon domaine ?» hurla Melchior. « Vous êtes là, un tas de coquins qui a acheté mon domaine pour le prêtre de Brebeu ? Vous n'avez pas honte, Marot, que le feu de l'enfer vous brûle !» Il empoigna un gros encrier et un chandelier qu'il lança dans la foule. Toute l'amertume de son cœur endoloré se déversa avec une sauvage violence. Rugissant et brandissant un poing fermé, tandis que dans son autre main il jetait des bouteilles et des verres, il se rua sur les acheteurs. « Fini la vente !» s'écria-t-il. « Sortez d'ici! Jamais le prêtre de Brebeu n'aura Bjorn. Sortez! Je vous apprendrai ce qu'il en coûte de faire les commissions du maître de Brebeu. » Le crieur et les clercs se sauvèrent à toutes jambes et dans leur précipitation culbutèrent le comptoir. La panique fut indescriptible. 200 personnes se pressaient et s'écrasaient à la porte, fuyant éperdument devant un seul homme. « Sortez d'ici! Sortez » hurlait-il armé d'une chaise dont il se servait comme d'une massue. Il les chassa jusque dans le vestibule. Quand le dernier étranger eut sauté le pas, il retourna au salon et verrouilla la porte. Puis, tirant des piles de literie, un matelas et un coussin, il s'y jeta, et au milieu de la dévastation, s'endormit d'un sommeil dont il ne se réveilla que le lendemain matin. Eosta, rentré avec Buzz, se demandait comment entretenir Marianne lorsqu'on lui annonça qu'elle l'attendait. La pièce était plongée dans une demi-obscurité, et le jeune homme s'arrêta un instant et chercha des yeux la forme plus sombre de la jeune fille. « N'approche pas, Eosta, » dit la voix de Marianne. « Il pourrait y avoir encore du danger à venir trop près de moi. » Mais Eosta, qui, tremblant du désir de la revoir, avait monté l'escalier en quelques bonds, ne craignait guère la maladie contagieuse. Il lui tardait de contempler le beau visage de sa bien-aimée. Personne n'avait le front plus clair et plus lumineux, le teint plus frais. Que de fois il avait rêvé de ses sourcils dont le dessin était aussi pur que celui des lignes sur les pétales d'un lys, et dont l'arc noir sous ses cheveux blonds avait une grâce ensorcelante. Et il savait aussi quel homme fier et chaleureux se cachait dans son apparente froideur, et quelle énergie courait sous sa peau fine. Il traversa la chambre en coup de vent, et se jeta à genoux devant le canapé où elle était tendue. Son intention était de la voir, de l'embrasser et de lui dire adieu. Il l'aimait, mais son cœur devait s'accoutumer à ses brisements et à ses ruptures. Où cueillerait-il jamais la rose sans appui et sans racine qu'il pourrait appeler la sienne ? Pas même la charmante fille qu'il avait rencontrée à demi morte au bord de la route ne lui resterait. « C'est d'une trop grande misère chez toi, lui dirait-il. Il faut que tu y retournes pour que ton père retrouve sa raison. Ta mère vit presque du matin au soir dans un péril de mort, il faut partir, ma bien-aimée. » Mais ces paroles de sacrifice qui déjà lui montaient aux lèvres ne furent jamais prononcées. Il avait saisi la tête de la jeune fille entre ses deux mains et la baisa. Puis les mots expirèrent dans sa gorge et son cœur battit à rompre. Hélas, la petite vérole avait passé sur ce beau visage. La peau était couverte de cicatrices. Jamais plus le sang rose ne transparaîtrait sous le velouté des joues. Jamais plus les veines bleues ne se dessineraient sur les tempes. Les yeux ternis disparaissaient sous de lourdes paupières enflées. Les sourcils étaient tombés et le blanc de l'œil avait jauni. Toute cette beauté que devait pleurer le gai peuple du Fermland avait été ravagée. Un indicible sentiment d'amour envahit l'âme de Eosta Berling. La tendresse jaillissait en lui comme les ruisseaux du printemps. La passion se condensait en larmes dans ses yeux, soupirait sur ses lèvres, tremblait dans ses mains, vibrait dans tout son cœur. On l'aimait, la défendre, la dédommager. Mais comment lui parler maintenant de séparation et de sacrifice? Il ne pouvait plus la quitter, il lui devait sa vie entière. Il pleurait, l'embrassait et pleurait encore, et n'arrivait pas à prononcer un mot. La vieille garde-malade fut obligée de l'arracher à ses effusions. Quand il se fut éloigné, Marianne resta longtemps songeuse. « Qu'il est bon d'être aimée ainsi ? » murmura-t-elle. « Oui, c'était bon, mais elle, Marianne, que sentait-elle ? » « Rien, moins que rien. »« Ah, mon amour !» soupira la jeune fille. « Mon cher amour, qu'est-il advenu de toi ? Te caches-tu ? Es-tu mort, mort comme ma beauté ?» Le lendemain, le maître de forge, Melchior Sinclair, entra de bonne heure chez sa femme. « Tâche de remettre tout en ordre ici, » dit-il. « Je vais chercher Marianne. » « Oui, cher Melchior, il sera fait comme tu le désires. » Tout fut ainsi réglé entre eux. Une heure plus tard, Melchior Sinclair se mettait en route pour Aigbe. Il lui était difficile de voir un vieux maître de forge d'aspect plus noble et plus bienveillant, assis dans son traîneau dont la capote était baissée, vêtu de sa meilleure pelisse et sanglé de sa plus belle ceinture. On distinguait sous le bonnet de fourrure des cheveux bien lissés. Seulement, son visage était pâle et ses yeux singulièrement fatigués. Mais aussi, quelle profusion de lumière ruisselait du ciel! La neige brillait comme des yeux de jeune fille aux premières notes de la polka. Les bouleaux tendaient leurs fines dentelles de rameaux roux où pendaient encore de petits glaçons clignotants. Un merveilleux éclat de fête irradiait sur toute la journée. Les chevaux marchaient d'un pas relevé et dansant, et le cocher faisait claquer son fouet par simple joie et par amour du bruit. Le traîneau du maître de forge s'arrêta bientôt devant le perron d'Aigbe. Un valet sortit. Où sont tes maîtres? Demanda Melchior. « Ils chassent le grand ours de Gurlitta. »« Tous ?»« Tous sont partis. Ceux qui ne vont pas pour l'ours vont pour le panier de victuailles. » Le maître de forge rit à faire trembler la cour silencieuse, et cette réponse eut plus temps qu'il donna un rix d'alheur au garçon. « Va dire à ma fille que je suis venu la chercher. Elle n'aura pas froid. J'ai choisi le traîneau à capote et je lui apporte une pelisse de loup. »« Le patron ne prendra-t-il pas la peine d'entrer ?»« Non, merci, je suis bien ici. » Le valet disparut et le maître de forge commença d'attendre. Ce jour-là, il était de si charmante humeur que rien n'était capable de l'agacer. Il s'était préparé à une assez longue attente. Peut-être sa fille ne serait-elle pas levée. Il s'amuserait à regarder autour de lui. Justement, un gros glaçon pendait du toit et donnait fort à faire aux rayons du soleil. C'était en vain qu'il l'attaquait à la racine. Les gouttes qui fondaient et roulaient n'en avaient pas atteint la pointe qu'elles étaient de nouveau prises. Et le soleil s'évertuait et les gouttes gelaient. Mais un petit brigand de rayon, un tout petit, vif et pétillant de zèle, s'accrocha à l'extrémité du glaçon, et tout d'un coup, une goutte se détacha et sur le sol tomba, doucement sonore. « Tu n'es pas bête, toi !» dit le maître de forge au petit rayon de soleil. La cour était déserte. Aucun bruit ne s'échappait de la vaste demeure. Mais Melchior savait que les femmes mettent beaucoup de temps à leur toilette. Il ne manifesta pas la moindre impatience et tourna les yeux vers le colombier. On en avait entouré la plateforme d'un fin grillage afin d'empêcher, durant l'hiver, les colombes de sortir. De temps à autre, une colombe s'avançait et insinuait sa tête blanche dans le réseau des mailles de fer. « Elle attend le printemps, se dit Melchior Sinclair, mais il lui faut de la patience. » La colombe revenait si régulièrement qu'il prit sa montre et constata qu'elle le faisait toutes les 3 minutes. « Mon nom, ma belle, » dit-il. « Crois-tu donc que le printemps est prêt en 3 minutes ? Patiente, patiente !» Et il dut patienter lui aussi. Mais il avait tout son temps. Les chevaux labouraient de leurs sabots la neige brillante, et à force de la regarder, ils finirent par rapprocher leur tête à s'endormir. Le cocher, droit sur son siège, le fouet et les rênes en main, face au soleil, ronflait. Le maître de forge ne dormait pas. Il n'avait même jamais eu moins envie de dormir. Et rarement il avait passé des heures plus attrayantes. Marianne avait été malade, mais elle allait venir et tout serait au mieux. Elle devait bien comprendre qu'il n'était point fâché, puisqu'il était là, avec 2 chevaux et le traîneau à capote. Là-bas, sur la planche où reposait la ruche, une mésange charbonnière, en quête de son dîner, s'était avisée d'une ruse diabolique. Elle picotait la planche de son petit bec tranchant. Dans leur demeure, les abeilles surprises entendent ce picotement, et toute la ruche n'est qu'un susurrement de curiosité. « Est-ce un ami ? Un ami ?» La reine anxieuse s'impatiente. « Va voir ce que c'est » ordonne-t-elle à la sœur tourière. Celle-ci s'élance dehors. Et, le cou tordu, les ailes palpitantes, l'oiseau de la saisir, de l'écraser et de l'avaler. Puis il se remet à frapper du bec, et la reine, lasse d'attendre, dépêche une autre messagère. L'une après l'autre, les envoyés disparaissent. La ruche devient houleuse d'angoisse. Ah, si l'on pouvait y être sourd et indifférent, si l'on y savait attendre. Le grand Melchior Sinclair rit aux larmes de ces sottes petites femmes blotties dans leur ruche et de la malice du coquin d'oiseau à la calotte noire et au jabot vert. En vérité, l'attente n'est pas difficile quand on est sûr de son affaire et qu'il y a autour de soi tant de sujets de distraction. Voilà le chien de garde qui s'avance. Il s'approche sur la pointe des pattes, les yeux baissés, et il agite indolemment sa queue comme s'il errait sans but. Tout à coup, il se met à gratter furieusement la neige, le sacripant ayant enfoui quelque bien mal acquis. Mais au moment où il lève la tête pour voir s'il peut le manger en pleine tranquillité, il reste tout penaud devant les pies qui le regardent. « Shipper !» disent les pies qui lui semblent la conscience personnifiée. « Taisez-vous, canaille, je suis le gardien ici !»« Le beau gardien !» font-elles avec leur rire moqueur. Le chien se jette sur les pies et les pies s'enfuient avec de lourds battements d'ailes. Le chien saute, aboie. Pendant qu'il chasse l'une, l'autre vole droit au trou. On arrache un lambeau de viande, mais n'arrive pas à le soulever et l'emporter. Le chien se retourne, attrape le morceau, le retient par les pattes et y mord. Les pies reviennent et lui chantent pouille. Il leur lance tout en mangeant des regards furibonds, et quand elles redoublent d'insolence, il se précipite et les met en fuite. Le soleil commence à décliner vers les montagnes de l'ouest. Le maître de forge regarde sa montre. Il est 3 heures et le dîner était commandé pour midi. Juste à ce moment, le valet vient lui annoncer que Mademoiselle Marianne désirait lui parler. Le maître de forge prit sur son bras la pelisse de loup et monta l'escalier, la figure rayonnante. Quand Marianne entendit ses pas pesants, elle n'était pas encore décidée à le suivre. La jeune fille avait espéré que les cavaliers reviendraient, qu'irrité d'attendre son père s'en irait, ou encore qu'il enfoncerait les portes et mettrait le feu à la maison. Mais cette attente patiente, tranquille, souriante, assurée, avait fini par lui donner une sorte d'angoisse. La volonté de cet homme impassible l'enchaînait comme d'un lien magnétique et l'attirait vers le traîneau. Pour rompre le charme, ne sentant plus contre lui ni rancune ni tendresse, elle résolut de lui parler. Elle fit lever les stores et se plaça, le visage en pleine lumière. Mais ce jour-là, Melchior Sinclair était un homme extraordinaire. Il la vit, ne broncha pas. Elle savait pourtant de quel orgueil il avait chéri son beau visage. Qu'il se maîtrisa afin de ne pas l'affliger, elle en fut saisie. « Je t'envelopperai bien, » lui dit-il simplement, « dans la grosse pelisse. Elle n'est pas froide. Je l'ai tenue tout le temps sur mes genoux. » Cependant, il l'étendit un instant devant le feu. Puis, il aida sa fille à se lever du canapé, la couvrit, jeta sur sa tête un châle qui lui passa sous les bras et lui noua dans le dos. Inerte, elle se laissa faire. Qu'il était agréable d'être choyé et commode de ne plus être forcé de vouloir. Le maître de forge l'emporta jusqu'au traîneau, releva la capote, et l'attelage s'éloigna avec Beu. Marianne ferma les yeux et soupira, soupir de bien-être et de regret. Elle disait adieu au vrai bonheur de l'existence, que lui apportait d'ailleurs à elle qui ne savait pas vivre, mais seulement jouer sa vie. Quelques jours plus tard, sa mère lui ménagea une entrevue avec Josta Berling. On profita de l'absence du maître des forges qui était allé surveiller ses coupes de bois dans la forêt. Josta entra, il ne salua ni ne parla, et resta près de la porte, les yeux fixés à terre. « Josta !» s'écria Marianne qui, assise dans un fauteuil, le regardait d'un œil presque amusé. « Oui, c'est mon nom. Viens ici, près de moi, Josta !» Il s'approcha lentement sans lever les yeux. « Plus près et agenouille-toi. À quoi bon tout cela » fit-il en obéissant. « Josta, je voulais te dire qu'il m'a semblé préférable de revenir à la maison. Espérons seulement qu'on ne vous rejettera pas dans la neige. »« Oh, Josta, tu ne m'aimes donc plus? Trouves-tu que je suis trop laide ?» Il attira vers lui le visage de la jeune fille et le baisa d'un air indifférent. Au fond, Marianne en était égayée. S'il plaisait à Josta d'être jaloux de ses parents à elle, que pouvait-elle y faire? Sa jalousie passerait. Il s'agissait de le regagner. Elle eût été fort embarrassée de dire pourquoi elle voulait le retenir. Elle le voulait, cependant. Il était la seule personne au monde qui l'eût un instant délivré d'elle-même. La seule dont elle put encore espérer ce miracle. Elle lui expliqua que son intention n'était pas de l'abandonner pour toujours, mais seulement d'interrompre quelque temps leur relation. Loin d'elle, son père devenait fou. Sa mère vivait en péril de mort. Josta devait lui pardonner, l'approuver même d'avoir quitté Egbe. La colère du jeune homme éclata. Marianne s'était jouée de lui. dès qu'on lui avait permis de rentrer à son foyer, n'avait pas hésité à partir et à le délaisser. Quand, à son retour de la chasse, il avait trouvé la chambre vide, et sans un mot, un seul mot d'elle, son sang s'était figé dans ses veines. Il ne pouvait plus l'aimer. D'ailleurs, l'avait-elle jamais aimé, cette coquette qui ne demandait à l'amour que des gâteries et des caresses? Marianne revint sur ses explications et l'assura de sa fidélité. Il lui répondit qu'il ne lui pardonnerait jamais son départ et que sa tendresse était morte. Elle l'écoutait, mi-sérieuse, admettant son irritation, mais ne croyant pas à une vraie rupture. Toutefois, la froideur persistante de Yosta commença de l'inquiéter. « Ne me reproche pas mon égoïsme, dit-elle. Est-ce par égoïsme que je suis allée à Sieux? Ne savais-je pas que la petite Vérole s'y était déclarée? Je n'étais-je pas encore en souliers de bal sur cette route de neige et de glace? L'amour vit d'amour, nom de service et de bienfait. Tu veux donc que nous soyons désormais étrangers l'un à l'autre? Soit. Yosta Berning a le cœur changeant. On en accuse, en effet. » Elle comprit à ce moment que si elle avait eu un sentiment instinctif et vrai, un de ces sentiments qui remplissent et absorbent l'âme, quelques mots auraient suffi à fondre la glace du jeune homme. Mais elle était de glace elle-même au fond d'elle-même, et pourtant, l'idée de le perdre lui était insupportable. « Yosta, ne pars pas irrité, ne pars pas! Je n'ai jamais aimé que toi !»« Tu ne dis pas la vérité, » répondit-il. « Tu me trompes ou tu te trompes. Adieu. » À peine eut-il fermé la porte, Marianne éprouva une douleur atroce et presque physique. Les mains crispées sur son cœur, elle demeura des heures entières, immobile, torturée, les yeux sans larmes. Elle ne se ressaisit qu'à la pensée que tout n'était peut-être pas perdu et qu'il lui restait la ressource d'écrire à Yosta. Elle lui écrivit une lettre passionnée et cette lettre la soulagea. Mais les jours suivants, l'amour-propre l'empêcha de la lui envoyer. Le temps passa et avant qu'elle eût trouvé un messager, elle apprit sur Yosta Berning des choses qui lui firent comprendre qu'il était trop tard pour le conquérir. Elle souffrit, mais la souffrance lui rendit le service qu'elle avait attendu de l'amour. La jeune Marianne en sortit plus simple, plus complète, capable de se donner tout entière, et malgré sa laideur, plus aimable et plus aimée. Cependant, on dit qu'elle n'oublia jamais Yosta Berning. Son cœur emporta le deuil, comme d'une vie infiniment riche, un jour entrevue et à jamais évanouie.